Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Je m'appelle Yubi Suryanto et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, jeudi, il est 3h du matin du temps à Jakarta. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journal suivi du commentaire « Aujourd'hui dans l'histoire », la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre émission, la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Je laisse la parole à mon ami qui va vous présenter le bulletin d'information.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et le Danemark coopèrent dans le domaine de l'industrie qui respecte l'environnement. L'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie augmentera la valeur du commerce de l'Indonésie à l'Australie. L'Indonésie et l'Australie renforcent la coopération pour résoudre le problème du terrorisme. L'Indonésie a souligné l'importance de la coopération inclusive de l'espace. L'Indonésie et les pays membres de l'OIT ont approuvé la convention de la carte d'identité des matelots et enfants. L'Indonésie va construire l'université islamique internationale pour la contribution à la civilisation mondiale. Voici le journal complet. L'Indonésie coopère avec le Danemark dans la réglementation industrielle respectueuse de l'environnement à travers la réunion entre le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, et l'ambassadeur du Danemark en Indonésie, Kasper Klings. Le Danemark a l'expérience pour faire croître l'économie avec une forte absorption d'énergie fixée n'est pas trop augmentée depuis 30 ans, a déclaré le directeur général de la sécurité et le développement de l'accès de l'industrie internationale du ministère de l'Industrie d'Indonésie, Ahmad Sigit Wahyono, mercredi à Jakarta. Selon Sigit, aujourd'hui, l'Indonésie a besoin de réglementation de l'industrie écologique parce que le gouvernement encourage le développement du secteur industriel dans le pays pour stimuler la croissance économique. Le Danemark utilise plusieurs méthodes pour mettre en œuvre les industries respectueuses de l'environnement, telles que les économies d'énergie et des audits énergétiques. Concernant la coopération avec le Danemark, l'Indonésie va voir les méthodes potentielles et la technologie industrielle environnementale de ce pays qui n'est pas encore appliquée en Indonésie. Dans la première étape, selon le ministère de l'Industrie de l'Indonésie, Ahmad Sigit Wahyono, la forme de cette coopération est l'échange d'informations entre les deux pays qui devrait être suivi par la signature d'un protocole d'entente. L'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, IACEPA, augmentera la valeur des échanges entre l'Indonésie et l'Australie. Comme l'a déclaré le haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Wahyono, mercredi à Jakarta. Selon Sigit, la réactivation des négociations après 2 ans arrêt se concentrera pour trouver des points de coopération qui peuvent bénéficier des deux pays. Ainsi, l'Indonésie et l'Australie peuvent mutuellement élargir l'accès au marché pour les deux pays et de renforcer la coopération. Le mois prochain, il y aura une autre réunion à Yogyakarta organisée par le ministère du Commerce, a déclaré Sigit. Dans le troisième cycle de la réactivation de négociation de IACOPA, les deux pays ont convenu que la forme de la coopération économique sera conçue pour être plus moderne et complète. La coopération d'IACOPA sera mutuellement bénéfique et réalisable en produisant un accord préliminaire qui peut être appliqué immédiatement. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Australie pour renforcer la coopération pour lutter contre la menace du terrorisme en maintenant Conseil ministériel de l'Indonésie et l'Australie sur le droit et de la sécurité pour la deuxième fois à Sydney, l'Australie, mercredi. Le ministre indonésien de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, à Sydney, a déclaré mercredi que la coopération entre l'Indonésie et l'Australie était dans un bon niveau en raison des bonnes relations avec l'engagement de chaque chef de l'État, à savoir le président Joko Widodo et le premier ministre Malcolm Turnbull. Selon le ministre Luhut, l'un des exemples du succès pour faire face à la menace terroriste est la cartographie du mouvement de l'État islamique d'Irak et de la Syrie ou ISIS en Asie du Sud-Est, dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi. Le ministre de la Justice, qui est également le ministre des Affaires spéciales de terrorisme, Michael Keenan a déclaré que l'Indonésie et l'Australie face à la menace des organisations terroristes internationales. L'Indonésie a souligné l'importance de la coopération internationale qui est inclusive et durable dans les activités spatiales, en particulier pour les pays en développement. Le conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Vienne, Dodi Kusumanegoro, cité par Antara, Londres, jeudi, mentionne que cela a été déclaré le chef de l'Institut de l'Aéronautique et de l'Espace National, LAPAN, Thomas Abu Bakr, en tant que président de la délégation indonésienne au débat général de la 59e séance du Comité des Nations Unies sur les utilisations de l'espace pour le bout pacifique tenu à Vienne mercredi. Thomas Jamaluddin a souligné que la coopération internationale priorisant l'implication durable de tous les pays soutiendrait l'augmentation des capacités dans le domaine de la technologie spatiale pour les pays en développement. Cela ne soutient pas seulement le développement des activités spatiales, mais aussi contribue à la réalisation des objectifs du programme de développement mondial. À cette occasion, Thomas Jamaluddin a transmis également des plans de LAPAN pour lancer le troisième microsatellite de basse orbite de Terre le 20 juin 2016 à Chatis Dhawan Space Center Shar en Inde. L'Indonésie est 186 pays membres de l'Organisation internationale du travail OIT ont approuvé des amendements à la Convention des travailleurs maritimes 2006. En particulier concernant la Convention 185 sur la carte d'identité des matelots. L'Indonésie a voté dans une session de vote des amendements de la Convention des travailleurs maritimes 2006 dans le bâtiment des Nations Unies à Genève, en Suisse, mercredi. La vote de l'Indonésie a été représentée par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdul Wahab Bangkong, et le directeur général des relations industrielles et de la sécurité sociale, Hayani Rumondang. Tandis que les deux autres votes indonésiennes sont les représentants des hommes d'affaires et des travailleurs. La participation de l'Indonésie dans cette organisation internationale montre que l'Indonésie veut protéger ses citoyens, en particulier ceux qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger. Le ministre des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, a déclaré que l'Indonésie construira l'Université islamique internationale située à Cimanggis, Depok, l'ouest de Java. Le plan de la construction de l'Université internationale islamique est en train d'être préparé à travers le décret présidentiel pour créer une base réglementaire pour accélérer le processus de la construction. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, aux journalistes après une rencontre avec le vice-président Yusuf Kalla au bureau du vice-président Jakarta mercredi. Saifuddin Luqman Hakim a expliqué « La construction de l'Université islamique internationale d'Indonésie vise à améliorer la qualité de l'Université islamique en Indonésie et à introduire la civilisation islamique en Indonésie afin d'apporter une contribution positive à la civilisation islamique dans l'arène mondiale. » Le ministre des Affaires religieuses a expliqué que l'Université islamique internationale de l'Indonésie serait sous la coordination du ministère des Affaires religieuses en faisant participer le rôle du ministère de la Recherche, la Technologie et de l'Éducation supérieure et le ministère des Affaires étrangères. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Cinquième antenne, voici donc le commentaire ayant pour le titre « Simplifier la chaîne de distribution alimentaire ». L'augmentation des prix des denrées alimentaires à propos du Ramadan en Indonésie se produit toujours chaque année. Ceci est très lourd pour le grand public. Le gouvernement a tenté de réduire les prix des denrées alimentaires. L'une des façons est d'ouvrir les importations de certains produits tels que la viande bovine, le sucre et l'oignon avec l'espoir que la hausse des prix alimentaires pourrait revenir à la normale. En outre, le gouvernement doit aussi ajouter la fourniture de certains produits alimentaires. Cependant, en dépit de quelques mesures ont été prises, la hausse des prix de denrées alimentaires est toujours en course. Voyant ce phénomène, le gouvernement a finalement admis qu'il y avait des anomalies dans le commerce des denrées alimentaires. Le gouvernement a déclaré que la quantité de matières premières d'alimentation est beaucoup, mais les prix sont encore plus élevés. Le ministre de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a déclaré que les stocks alimentaires en juin est suffisant. Comme par exemple, en juin, la fourniture de l'huile de cuisson atteint environ 1,8 million de tonnes à la demande estimée de 455 000 tonnes. L'approvisionnement de poulet est de 156 000 tonnes avec une demande estimée de 112 000 tonnes. Ainsi, ces produits sont disponibles plus du double par rapport aux besoins. Le gouvernement a demandé au chef de la police indonésienne d'enquêter sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Cette question doit être résolue immédiatement. Le président de la Commission de l'économie et de l'industrie nationale, Sutrisno Bahir, a déclaré que le gouvernement devrait réduire la chaîne de distribution alimentaire. Pendant ce temps, le président de la Commission de surveillance du concours d'affaires KPPU, Sharkawi Raouf, a déclaré que sa parti voyait la question de la longue chaîne de distribution qui ont le potentiel d'exister des pratiques mafieuses de la nourriture. Ce problème peut déclencher des complots et des pratiques de cartel en Indonésie, ainsi que de faire le public troublé en raison de la hausse des prix des produits des besoins de base sur le marché. Il a donné un exemple, le prix élevé de l'huile ne convient pas avec le prix normal du marché. Il observait le prix de l'huile dans l'usine à laquelle a diminué d'environ 5,5%, mais il y a des anomalies. Quand il est vendu sur le marché, le prix augmente. Cela signifie qu'il y a le problème dans la chaîne de distribution. Sharkawi considère qu'il doit y avoir une simplification immédiate de la chaîne de distribution alimentaire. Ceci est une question très importante et stratégique. En outre, la surveillance de la production alimentaire dans les usines est également nécessaire pour éviter les pratiques déloyales. La supervision des besoins de base pour éviter la spéculation, notamment à propos du Ramadan et de l'Fitr, devrait également être effectuée régulièrement. Pour raccourcir le canal de distribution et donner l'accès à des prix abordables pour le public, le gouvernement et les parties privées peuvent mener des opérations de marché et le bazar alimentaire à bas prix massivement. Cette mesure pourrait raccourcir la chaîne d'approvisionnement et d'établir une nouvelle structure de marché. Ainsi, les agriculteurs peuvent profiter de meilleurs revenus de leurs récoltes, les commerçants peuvent obtenir un avantage normal et le grand public ne sont pas préoccupés par la hausse des prix alimentaires. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition de 9 juin. On va commencer le 9 juin 1905. Albert Einstein a publié la théorie de la physique quantique dans la revue Annalen der Physik. Albert Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm-Württemberg et mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey, est un physicien théoricien qui fut successivement allemand, apatride 1896, suisse 1901 et sous la double nationalité helvético-américain 1940. Il publie sa théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la gravitation, dite relativité générale, en 1915. Il contribue largement au développement de la mécanique quantique et de la cosmologie et reçoit le prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Son travail est notamment connu du grand public pour l'équation E égale mc2 qui établit une équivalence entre les matières de l'énergie d'un système. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et sa renommée dépasse largement le milieu scientifique. Il est personnalité du XXe siècle selon l'hebdomadaire Time. On continue le 9 juin 1923, coup d'État en Bulgarie. Le 9 juin 1923 est marqué en Bulgarie par un coup d'État orchestré par la Ligue militaire du général Ivan Valkov qui renverse le régime agrarien d'Alexandre Stamboliski. Alexandre Sankov prend alors les rênes d'un gouvernement conservateur tandis qu'Alexandre Stamboliski, en vacances pendant le coup d'État, est capturé et assassiné le 14 juin. Trois mois plus tard, l'insurrection du 23 septembre 1923 tentera de renverser à son tour le gouvernement d'Alexandre Sankov. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire, l'édition 9 juin de la Voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « La communauté économique de l'ASEAN est un moyen de prouver l'architecte indonésien ». La mise en œuvre de la communauté économique de l'ASEAN est la porte d'entrée pour les architectes indonésiens pour développer le potentiel à l'étranger, en particulier en Asie du Sud-Est, comme indiqué par un architecte indonésien, Lim Hendy, récemment à Jakarta, dans une conférence de presse liée au plan de l'exposition de l'architecte Archidec 16 à Kuala Lumpur, la Malaisie. Selon Hendy, la qualité des architectes indonésiens est probablement mieux que ceux de la Malaisie, mais il entre plutôt sur le marché de l'ASEAN ou sur le marché extérieur de l'ASEAN. Ceci est possible en raison de leur capacité à utiliser l'anglais. L'Indonésie participera à l'exposition de l'architecture des signes d'intérieur et l'industrie du bâtiment, à savoir Archidec 16, qui se tiendra du 20 au 23 juillet 2016 à Kuala Lumpur Convention Center, la Malaisie. Archidec 16 sera assisté par 15 000 participants composés des professionnels de l'industrie de la construction tels que l'architecture, les architectes d'intérieur, urbanistes, promoteurs immobiliers et les fabricants de l'industrie du bâtiment.
en plus de 500 entreprises avec 1200 stands animeront l'exposition. Les pays participants à cette exposition sont l'Indonésie, la Chine, la Belgique, l'Allemagne, Hong Kong, le Japon, la Malaisie, la Suisse, Taïwan, la Thaïlande, le Vietnam et les États-Unis. Lim Handi a déclaré que l'Association des architectes indonésiens, ou IAI, était en train de lutter pour la ratification de la loi des architectes. Avec cette loi, l'architecte dans le pays serait mieux protégé. Parce que l'un des points de la loi stipule que les architectes étrangers qui veulent entrer en Indonésie devraient coopérer avec des architectes locaux. En outre, il y a aussi d'autres réglementations. Ainsi, l'architecte de l'extérieur n'est pas facile d'amener son personnel à l'Indonésie. Le développement de l'industrie des architectes, notamment dans le domaine de la conception et la construction de bâtiments, commence à exister dans les régions en Indonésie. La construction des immeubles de grande hauteur qui sont construits à Jakarta et environ maintenant peuvent être trouvés dans les villes en dehors de Java, telles que l'hôtel, le bureau et l'appartement. Selon Lim Handi, la hausse de la demande pour la construction dans la région en raison de l'augmentation de la population indonésienne. Le marché dans ce secteur est très prometteur par rapport à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Même en comparaison avec la Malaisie et Singapour, le marché indonésien est encore plus grand. Il fait également des architectes étrangers ont afflué à l'Indonésie pour étudier l'architecture du bâtiment. Bangladesh et l'Inde, comme par exemple, ils sont venus à l'Indonésie en utilisant de grands autobus. Chers amis, c'est la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Indonésie coopère avec le Danemark dans la réglementation industrielle respectueuse de l'environnement à travers la réunion entre le ministre indonésien de l'Industrie, Saleh Husin, et l'ambassadeur du Danemark en Indonésie, Kasper Klings. Le Danemark a l'expérience pour faire croître l'économie avec une forte absorption d'énergie fixée n'est pas trop augmentée depuis 30 ans, a déclaré le directeur général de la sécurité et le développement de l'accès de l'industrie internationale du ministère de l'Industrie d'Indonésie, Ahmad Sigit Wahyono, mercredi à Jakarta. Selon Sigit, aujourd'hui, l'Indonésie a besoin de réglementation de l'industrie écologique parce que le gouvernement encourage le développement du secteur industriel dans le pays pour stimuler la croissance économique. Le Danemark utilise plusieurs méthodes pour mettre en œuvre les industries respectueuses de l'environnement, telles que les économies d'énergie et des audits énergétiques. Concernant la coopération avec le Danemark, l'Indonésie va voir les méthodes potentielles et la technologie industrielle environnementale de ce pays qui n'est pas encore appliquée en Indonésie. Dans la première étape, selon le ministère de l'Industrie de l'Indonésie, Ahmad Sigit Wahyono, la forme de cette coopération est l'échange d'informations entre les deux pays qui devrait être suivi par la signature d'un protocole d'entente. L'accord de partenariat économique global Indonésie-Australie, IACEPA, augmentera la valeur des échanges entre l'Indonésie et l'Australie. Comme l'a déclaré le haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, Ahmad Sigit Wahyono, mercredi à Jakarta. Selon Sigit, la réactivation des négociations après deux ans arrêt se concentrera pour trouver des points de coopération qui peuvent bénéficier des deux pays. Ainsi, l'Indonésie et l'Australie peuvent mutuellement élargir l'accès au marché pour les deux pays et de renforcer la coopération. Le mois prochain, il y aura une autre réunion à Yogyakarta organisée par le ministère du Commerce, a déclaré Sigit. Dans le troisième cycle de la réactivation de négociations de IACEPA, les deux pays ont convenu que la forme de la coopération économique sera conçue pour être plus moderne et complète. La coopération d'IACEPA sera mutuellement bénéfique et réalisable en produisant un accord préliminaire qui peut être appliqué immédiatement. Le gouvernement de l'Indonésie et l'Australie pour renforcer la coopération pour lutter contre la menace du terrorisme en maintenant conseil ministériel de l'Indonésie et l'Australie sur le droit et de la sécurité pour la deuxième fois à Sydney, l'Australie, mercredi. Le ministre indonésien de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Binsar Panjaitan, à Sydney, a déclaré mercredi que la coopération entre l'Indonésie et l'Australie était dans un bon niveau en raison des bonnes relations avec l'engagement de chaque chef de l'État, à savoir le président Joko Widodo et le premier ministre Malcolm Turnbull. Selon le ministre Luhut, l'un des exemples du succès pour faire face à la menace terroriste est la cartographie du mouvement de l'État islamique d'Irak et de la Syrie, ou ISIS, en Asie du Sud-Est, dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi. Le ministre de la Justice, qui est également le ministre des Affaires spéciales de terrorisme, Michael Keenan, a déclaré que l'Indonésie et l'Australie face à la menace des organisations terroristes internationales. L'Indonésie a souligné l'importance de la coopération internationale qui est inclusive et durable dans les activités spatiales, en particulier pour les pays en développement. Le conseiller de l'ambassade d'Indonésie à Vienne, Dodi Kusumonegoro, cité par Antara Londres, jeudi, mentionne que cela a été déclaré le chef de l'Institut de l'Aéronautique et de l'Espace National, LAPAN, Thomas Abu Bakr, en tant que président de la délégation indonésienne au débat général de la 59e séance du Comité des Nations Unies sur les utilisations de l'espace pour le bout Pacifique, tenu à Vienne mercredi. Thomas Jamaluddin a souligné que la coopération internationale priorisant l'implication durable de tous les pays soutiendrait l'augmentation des capacités dans le domaine de la technologie spatiale pour les pays en développement. Cela ne soutient pas seulement le développement des activités spatiales, mais aussi contribue à la réalisation des objectifs du programme de développement mondial. À cette occasion, Thomas Jamaluddin a transmis également des plans de LAPAN pour lancer le troisième microsatellite de basse orbite de Terre le 20 juin 2016 à Chatis Dhawan Space Center Shar en Inde. L'Indonésie est 186 pays membres de l'Organisation internationale du travail, OIT, ont approuvé des amendements à la Convention des travailleurs maritimes 2006, en particulier concernant la Convention 185 sur la carte d'identité des matelots. L'Indonésie a voté dans une session de vote des amendements de la Convention des travailleurs maritimes 2006 dans le bâtiment des Nations Unies à Genève, en Suisse, mercredi. La vote de l'Indonésie est représentée par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdul Wahab Bangkong, et le directeur général des relations industrielles et de la sécurité sociale, Hayani Rumondang. Tandis que les deux autres votes indonésiennes sont les représentants des hommes d'affaires et des travailleurs. La participation de l'Indonésie dans cette organisation internationale montre que l'Indonésie veut protéger ses citoyens, en particulier ceux qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger. Le ministre des Affaires religieuses, Luqman Hakim Saifuddin, a déclaré que l'Indonésie construira l'Université islamique internationale située à Cimanggis, Depok, l'ouest de Java. Le plan de la construction de l'Université internationale islamique est en train d'être préparé à travers le décret présidentiel pour créer une base réglementaire pour accélérer le processus de la construction. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires religieuses, Luqman Hakim Saifuddin, aux journalistes après une rencontre avec le vice-président Yusuf Kalla au bureau du vice-président Jakarta mercredi. Saifuddin Luqman Hakim a expliqué « La construction de l'Université islamique internationale de l'Indonésie vise à améliorer la qualité de l'Université islamique en Indonésie et à introduire la civilisation islamique en Indonésie afin d'apporter une contribution positive à la civilisation islamique dans l'arène mondiale. » Le ministre des Affaires religieuses a expliqué que l'Université islamique internationale de l'Indonésie serait sous la coordination du ministère des Affaires religieuses en faisant participer l'école du ministère de la Recherche, la Technologie et de l'Éducation supérieure et le ministère des Affaires étrangères. Serviteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ce sont toujours des nouvelles phrases qu'on vous propose à la Voix de l'Indonésie. Passons maintenant, le magazine culturel est suivi par l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel intitulé Une activité de Tarawa Umah Surau Masuk Poso. Diverses habitudes sont menées par la communauté indonésienne pour accueillir le mois de Ramadan. L'un d'entre eux est Tarawa Umah Surau Masuk Poso, faite par la communauté de Bengkulu, la communauté du village de Pondok Suguh, la régence de Moko-Moko. Le dimanche dernier, des centaines de résidents locaux étaient allés à la mosquée à pied. Les pères et les mères ont porté le panier, les plats d'accompagnement et d'autres aliments. À l'arrivée à la mosquée, des pâtisseries et des aliments qui sont apportés par les résidents ont été recueillis. Ensuite, ils ont prié et mangé ensemble. L'activité de Tarawa Umah Surau Masuk Poso est l'activité dans le cadre du mois de Ramadan. À cette activité, des centaines de personnes volontairement et joyeusement ont amené la nourriture à la mosquée. Les gens peuvent apporter les aliments et les gâteaux conformément à la souhaité, cela veut dire n'est pas spécifié. Le plus important est la solidarité. À cette occasion, toutes les personnes qui se sont réunies se pardonnent mutuellement. Lorsqu'ils mangent ensemble, chaque citoyen sera présenté des nourritures qui ont été préparées par les femmes. Avant de faire l'activité de Tarawa Umah Surau Masuk Poso, les gens doivent nettoyer la mosquée ensemble et préparer tous les besoins pendant les prières de Ramadan et la préparation du Tarawih. La communauté a également formé un comité spécial pour établir le calendrier de prières du Tarawih et préparer le menu pour l'iftar dans la mosquée pour la communauté volontairement. Chers amis, c'était notre programme magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis de la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, voici le magazine de Warna-Warni ou Le Couleur Indonésien, édition de jeudi, avec moi, Mama Swartono. Pour ce soir, je vous introduis sur le Festival de Fente de Jakarta 2016. Et assurez-vous que vous êtes toujours avec nous dans le programme magazine de Warna-Warni sur www.voi.co.id. Chers amis, pour les fans de shopping, ou faire des courses, c'est mieux d'aller à Jakarta, car à la date du 3 juin à 7 juillet 2016, il y a le grand festival de fin de Jakarta. Ce festival, tenu dans le cadre de la 489e anniversaire de la ville de Jakarta. En outre, ce festival est également organisé pour faire attirer les touristes locaux et étrangers à visiter la capitale de l'Indonésie. Cette année, le thème du festival est « Acheter plus, moins de plastique ». Parce qu'à travers ce thème, le public est invité à préserver l'environnement et exécuter le programme payé des sacs en plastique. Chers amis, il y a des choses différentes sur le grand festival de Jakarta cette année que l'année précédente. C'est l'inclusion de 20 marchés traditionnels. Ce marché sous l'auspice de PD Pasar Jaya, société provinciale, qui vend des variétés de produits de base à bas prix. Ce marché sont le marché Gondangdia, Johar Baru, Glodok, Tomang, Palmerah, Pos Pengumben, Jatinegara, Klender, Keramat Jati, et Cibubur. On souhaite que grâce à la présence des marchés traditionnels, le public puisse bien profiter, en particulier avec des prix pas chers au-dessus de prix moyens. Chers amis, de plus, 70 centres commerciaux à la ville de Jakarta participent aussi à ce festival en fournissant le rabais plus de 70% de réduction et les autres promotions intéressantes. De plus, moins de 23 centres commerciaux tiendront aussi la fin de minuit avec l'offre de rabais qui est très intéressant aussi. La fin de minuit aura lieu le samedi et le dimanche. Avec cette œuvre passionnante, on espère que le public peut profiter de divers programmes commerciaux parce que, comme les années dernières, le volume d'achat a pu produire la hausse des transactions, surtout comme cette année, pendant le mois de Ramadan et la fête de Idul al-Fitr. À l'objectif de cette année, la transaction aurait l'objectif plus de 15 milliards de rupiah, ou bien il y a la hausse de 8% de transactions que l'année dernière qui était 14 milliards de rupiah. Chers amis, c'était le magazine de warna-warni ou le couleur indonésien, dont le titre est le Grand Festival de Fente de Jakarta. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Passons maintenant au divertissement avec la couleur de la musique indonésienne qui va vous plaire.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical, un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voice.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop indonésienne, Rin Jamain. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson de Rin Jamain intitulée Citra. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson de Rinjamain intitulée Citra. Rinjamain a sa propre couleur vocale qui est très différente que d'autres chanteuses pop indonésiennes qui étaient populaires dans le pays. Avec le vocal rock humide, cette chanteuse pop se concentre à chanter les chansons jazz. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant sa chanson suivante intitulée Pardonnez-moi. Bonne écoute.
Maafkan diriku.
Chers auditeurs, c'était la chanson suivante de Rinjamain, intitulée « Pardonnez-moi ». Si nous écoutons les chansons de Rinjamain, ces chansons sont emballées clairement avec la musicalité qui conduit au jazz. Par conséquent, Rinjamain peut être considérée comme une chanteuse de jazz de l'Indonésie. Ireng Maulana est devenue le plus méritoire de Farhine en tant que chanteuse talentueuse de jazz. Chaque fois qu'elle a enregistré des albums, Rinjamain ne peut pas être séparée de la supervision d'Ireng Maulana. Certes, bien que les chansons de Rin soient agréables à écouter, mais ces chansons n'ont pas encore de segment de marché universel dans le pays. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les chansons de Rinjamain intitulées « Solitude » et « J'essaie à nouveau ». Bonne écoute et à bientôt.
Langit yang biru, cemerlang tertutup awan yang kelabu. Tiada sinar yang terang membuat cerah di hatiku. Ku yang ber-
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Ces amis, il y en a des différentes les jours, alors n'oubliez pas de nous rester fidèles. Donnez-nous des suggestions ou envoyez-nous de vos nouvelles, vous qui nous écoutez des quatre coins du monde. C'est la fin de notre émission en français de la voix de l'Indonésie. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.